Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous sommes dans notre série Sexualité et spiritualité. Et ce soir, il sera question de tantrisme et donc de bouddhisme et d'hindouisme. Nous effleurerons un peu ces grands courants de pensée. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Daniel Audier, qui a publié poèmes, romans et de nombreux essais sur le tantrisme du Cachemire. Et il enseigne donc, comme nous le verrons tout à l'heure, la voie cachemirienne. Nous apprendrons ce que cela est. Et puis nous avons la chance d'avoir Françoise Bonnardel, qui est philosophe des religions, essayiste française, professeure émérite à l'université de Paris 1, qui est auteur, entre autres, de bouddhisme tantrique et alchimie. Donc nous avons de quoi discuter sur des terrains que vous ne connaissez pas, comme moi, forcément, mais qui sont passionnants. Laissez-moi d'abord vous présenter donc Madame Bonnardel. Vous êtes philosophe, essayiste, comme je le disais. Vous avez publié une quinzaine de livres alliant la philosophie, l'art, les religions. Vous êtes membre de l'Institut d'études bouddhiques depuis 2001. Vous avez publié donc le livre que j'ai lu avec intérêt, qui est « Bouddhisme tantrique et alchimie », mais vous avez publié beaucoup d'autres, et tout récemment encore en 2016-2017, et en particulier le dernier sur Jung, qu'on va retrouver un petit peu, donc les échanges philosophiques entre l'Occident et l'Orient, en tous les cas les sensibilités. Vous êtes membre d'honneur de la Société française de psychologie analytique. Vous avez organisé un séminaire à Vézelay qui a eu beaucoup de succès et qui était complet. Voilà. Donc, nous sommes ici aussi avec Daniel Audier, comme je le disais, qui est écrivain, 8 romans, poèmes, essais sur le tantrisme du Cachemire. Vous direz bien ce que c'est, qu'on comprenne dans ce monde un peu complexe. Vous êtes, je dirais, dans la tradition chouchou, monastère de Bailin, c'est bien ça?
Oui, Chao Chou, c'est le Tchad, c'est le zen chinois.
C'est le zen chinois. Voilà, vous avez publié aussi beaucoup de livres sur le tantra, tantra yoga, désir et passion et spiritualité, tantra et extase, et le grand sommeil des éveillés. Enfin, je ne cite pas tout, parce que vous avez, l'un et l'autre d'ailleurs, une production assez, assez dense, assez remarquable. Alors, première notion, il y a plusieurs tantras. Il y a plusieurs tantras, et pour comprendre le tantra, peut-être faut-il repartir juste la base de l'hindouisme et du bouddhisme, et peut-être leurs points communs et leurs points de différence. En tous les cas, ce que j'ai retrouvé, moi, dans les lectures, en particulier que l'hindouisme vénère un dieu, Brahman, qui lui-même se subdivise parfois en trois. C'est pas la même chose du tout dans le bouddhisme, puisque c'est à l'issue de son fondateur, qui est donc 5 siècles avant Jésus-Christ, Gautama, que nous avons. Et puis il y a des points communs et des points différents. Peut-être, Madame Bonnardel, vous voulez, sur ce thème-là, donner quelques indications à nos auditeurs.
Quelques repères.
Oui, quelques
voilà,
repères.
Quelques repères. Mais, ce qu'on nomme le bouddhisme, et qui est en fait composé de courants, ces fameux trois véhicules, bouddhisme ancien, Mahayana, grand véhicule, et Vajrayana, c'est-à-dire bouddhisme tantrique, tibétain essentiellement. Donc le bouddhisme est bien postérieur, comme vous l'avez dit, à ce qu'on nomme l'hindouisme, qui lui-même est un néologisme fabriqué par les orientalistes occidentaux. Mais l'hindouisme, disons, remonte à peu près à 1500 ou 2000 ans avant Jésus-Christ, donc à l'écriture des Védas. Hein. L'écriture sacrée de l'hindouisme, ce sont les Védas, puis les Upanishads, et le Vedanta et de Shankara en particulier est considéré comme étant l'achèvement des Védas. Donc il y a une tradition, disons, hindouiste, qui est bien antérieure au bouddhisme, qui, comme vous l'avez rappelé, date d'à peu près 500 avant Jésus-Christ. Alors, le bouddhisme, enfin, est un schisme. C'est une rupture.
C'est une critique de la.
C'est une critique en particulier de la notion de Brahman, qui revient très souvent dans les premiers discours ou sermons du Bouddha. C'est une critique qui repose sur un certain nombre de points de doctrine. Tout d'abord, la question de l'atman ou de l'anatman, c'est-à-dire du soi. Hein, vous trouvez cette notion de soi, soi humano-divin, disons, puisque dans l'hindouisme, le soi, c'est, si vous voulez, la réalité transcendante, c'est cette identité divine que chaque être humain porte en lui-même et que les pratiques méditatives, ascétiques, etc., sont supposées cultivées et elles permettent la réalisation. Donc le bouddhisme, lui, postule qu'il n'y a pas de soi, c'est-à-dire il déconstruit radicalement la notion d'identité, hein, qu'elle soit humaine ou divine, ou celle des éléments naturels. Par ailleurs, le bouddhisme ne reconnaît pas le système des castes. Donc il y a un certain
nombre.
Et le bouddhisme prône, alors l'hindouisme aussi, hein, parce que il y a toute une part de la pensée indienne qui cherche la même chose, au fond, qui vise la même chose que le Bouddha, c'est-à-dire la délivrance. Et ça, je crois que c'est très important par rapport à la question justement de la sexualité. On y reviendra, mais jusqu'à quel point une pensée religieuse peut-elle chercher la délivrance, prôner la délivrance, et en même temps s'accommoder, disons, des pratiques sexuelles, voire même les encourager. Donc ça, c'est une question vraiment très très délicate. En tout cas, le bouddhisme est un schisme qui redéfinit un certain nombre de notions. J'en ai cité deux, mais il y en aurait d'autres. Donc, si vous voulez, à partir de là, le bouddhisme va mener sa vie propre. Sera d'ailleurs chassé d'Inde. Hein. Ce n'est que très récemment qu'on assiste à un renouveau du bouddhisme en Inde et va se diffuser dans tout le sud-est asiatique. Donc il y a une diaspora, je dirais, du bouddhisme dans les pays comme la Chine, bien sûr, le Tibet, la Mongolie, etc. Donc, et alors le tantra, alors il y a, ça c'est ce qu'il faut bien voir, c'est que le tantra existe en Inde, bien sûr. Il y a un tantra indien qui est d'ailleurs à l'origine du tantra tibétain et cachemirien sans doute, et que la spécificité des tantras, le mot tantra signifie fil, hein, c'est l'idée d'une continuité, d'un collier de perles en quelque sorte, et que le tantra a toujours été marginal. C'est-à-dire, ça a toujours été une sorte de dissidence, parce que les méthodes tantriques, toutes les pratiques tantriques ne sont pas comparables à celles de la religion orthodoxe, qu'elle soit bouddhiste ou hindouiste.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le tantrisme est une évolution du bouddhisme, ou est-ce que ça se situe aussi bien de l'un comme de l'autre? C'était origine R de aussi bien de l'hindouisme que du bouddhisme, qui, comme vous l'avez dit, Madame Bonnardel, est un schisme.
Daniel, c'est-à-dire que le tantrisme du Cachemire est intéressant dans la mesure où il n'est ni bouddhiste, ni hindou. Il provient d'une source très antique de laquelle on connaît quasiment rien, qui est la vallée de l'Indus. Et c'est seulement au début de notre ère, dans les premiers siècles, qu'il y a eu des textes importants qui ont été publiés. Mais je pense que la grande différence, c'est la notion de réalité. Pour les bouddhistes et pour les hindous, la réalité est un phénomène illusoire. Celui qui l'aperçoit est relativement illusoire. Les sens sont illusoires. Alors que pour les tantriques, au contraire, la réalité existe. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on va coïncider avec la réalité, avec grâce. Et bien sûr, la sexualité fait partie de ce mode de coïncider. Mais c'est très différent dans la mesure où c'est une voie mystique, on peut dire, le tantrisme du Cachemire, non religieuse. Donc il y a eu pas mal de positions avec le bouddhiste, avec les hindous aussi, bien sûr. Et je pense aussi que la chose la plus intéressante par rapport à l'existence des dieux, les tantriques cachemiriens disent les hommes ont créé les dieux par peur de l'au-delà. Donc pour nous, mais pour les philosophes, c'est principalement philosophique, hein, avec Abhinavagupta et tous ces grands philosophes du Xe siècle. Donc il y a cette idée que nous avons créé les dieux, Bien sûr, les dieux sont très présents dans les textes. Et il y a une autre idée qui est assez intéressante, qui est celle, c'est pas parce que les dieux n'existent pas qu'il ne faut pas les adorer. Parce que l'adoration fait émerger de nous ce qu'on appelle la bhakti, c'est-à-dire l'élan le plus profond du cœur ou vers le réel. Mais je pense que le grand divorce, c'est par rapport à l'idée de réalité. Est-ce que ça existe? Est-ce que celui qui perçoit la réalité existe? Et pour les entrées, comme la réponse est claire, c'est oui, ça existe.
On retrouve la même position dans le tantra bouddhique tibétain. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en schématisant un peu, pour le bouddhisme ancien, la réalité est illusoire, il n'y a pas de réalité substantielle des choses, etc. Par conséquent, la délivrance consiste à en prendre conscience et à accepter cette irréalité des choses. Dans le Mahayana, les choses se compliquent un peu. Grand véhicule, oui. Dans la mesure où le Mahayana considère que la coupure effectuée par le bouddhisme ancien est elle-même perpétue la dualité. Et que par conséquent, si on veut cheminer sur la voie de la non-dualité, il faut admettre que le samsara, c'est-à-dire le monde illusoire, est le nirvana, et le nirvana est le samsara. Donc il y a un pas qui est franchi. Le tantrisme va plus loin. C'est-à-dire, comme le disait Daniel Audier, effectivement, il prend acte que la réalité effectivement est transitoire, éphémère, inconsistante, etc. Mais que c'est à partir d'elle, par la conscience qu'on en a, que l'on peut acquérir la délivrance. Donc, si vous voulez, il y a, par rapport à la réalité, une approche tout à fait différente et qui laisse une place, je dirais, à la transmutation, puis c'est l'alchimie est très présente, à la transmutation des émotions, des passions, de tout ce qui pourrait constituer un obstacle à l'éveil. Donc l'approche est tout à fait différente. Et d'ailleurs, le lien entre le tantra indien et le tantra bouddhiste tibétain a été fait par les fameux Mahasiddha, n'est-ce pas, Alors, c'est une caractéristique aussi du tantra. Les pratiquants sont des yogis. Des yogis, en général, très, très avancés dans leur pratique. Et qui ont des pratiques de type, enfin on dirait pour simplifier, magico-religieux. C'est-à-dire, ce sont...
Qu'est-ce que les Mahasiddha?
Alors, ce sont les grands siddhis, c'est-à-dire, ce sont les grands yogis, les grands éveillés, qui, à travers des pratiques de type magico-religieux, des pratiques yogiques au sens large, eh bien, atteignent l'éveil. Mais justement, cette manière d'atteindre l'éveil prend acte de la réalité et ne rejette pas la réalité simplement comme illusoire. Si vous voulez, la réalité devient une matière première, en fait, ce que les alchimistes appellent une materia prima.
Et puis aussi, les passions sont considérées comme un véhicule ultra rapide vers l'infini. Donc, c'est logique que dans un monde où la réalité est illusoire, on cherche le retrait de la réalité. Et c'est logique aussi que dans un monde où la réalité existe, on cherche au contraire à faire un avec cette réalité. Et puis, tous les maîtres qui sont venus chercher la tradition tantrique, sont venus la chercher au Cachemire, à part Padmasambhava, qui n'était pas vraiment cachemirien, mais d'Odhyana, c'est juste à côté, c'était un petit royaume. Donc, il y a eu cet afflux de Tibétains au 9e, peut-être 8e siècle, qui sont venus auprès des Mahasiddha, auprès de Tilopa, mais aussi auprès de femmes, c'est ce qui est intéressant, et ce qui a été gommé souvent sous Cassidy, et qui était très proche de Tilopa, c'était un maître femme, Niguma, qui vivait à la même époque, c'était aussi un maître femme.
Quelle est la situation aujourd'hui dans le Tibet, alors, d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, le Cachemire, c'est la guerre depuis 40 ans. Les factions se font une guerre terrible. Au Tibet,
il n'y a plus de ces sanctuaires?
Chez les tantriques cachemiriens, il n'y a jamais eu beaucoup de sanctuaires. pour une raison assez simple, c'est que c'était un peu des guérilleros de la pensée, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans les villages, ils n'avaient aucun signe particulier, ils avaient des métiers normaux, ils enseignaient le soir.
Oui, ils étaient plutôt masqués.
Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas tout ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont survécu, parce que quand les gens sont dans les temples, on brûle le temple avec les gens qui sont à l'intérieur.
Mais vous, facile. Vous pensez qu'il y a une... Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de passer à l'Occident? Vous avez beaucoup travaillé, Madame Bonnardel, sur aussi le lien Occident-Oriental et l'Orient. Mais est-ce que vous pensez que c'est une tradition qui continue actuellement ou qui est passée ailleurs, qui a migré?
C'était une tradition qui a été horriblement déformée dans les années 60. Et c'est vrai que ce que les gens entendent sous le mot tantra aujourd'hui, c'est l'opposé exact de ce qu'est la tradition tantrique. C'est un truc New Age qui a été fabriqué par les Californiens des années 60. Tout ça a été validé par un ou deux gourous indiens qui ont bien senti que c'était l'époque de la libération sexuelle. Mais ça n'a strictement rien à voir. Ça pourrait porter n'importe quel autre nom. C'est ce qui m'a toujours étonné. Pourquoi ils appellent ça tantra? Je comprends pas. Il n'y a aucun point commun.
Oui, on va revenir sur ce que c'est véritablement. Et vous allez nous dire ça dans un instant. Moi, ce que je voulais insister, c'est que la présence de la sexualité, elle est quand même manifeste dans certains écrits et aussi quand même dans certains temples. Alors les écrits, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand même les Kama Sutras, c'est pas rien. 64 ou 84, ça dépend de quelle origine on s'adresse en termes de position sexuelle. Les temples, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même beaucoup de temples au Népal, d'une part, où il y a une représentation de la sexualité qui est assez étonnante, on va dire, quand même. C'est pas une sexualité douce, c'est une sexualité multiple, c'est une sexualité très, très débridée, où il y a même des trios, des postures avec des animaux. Enfin bon, on est vraiment dans quelque chose qui étonne un peu. Les temples de Khajuraho, qui ont été construits au 10e, 11e siècle, sont un chef-d'œuvre de ce point de vue-là.
Surtout qu'ils bougent avec la lumière. Quand la lumière monte, on a l'impression que tous les corps entrent en mouvement, selon l'heure du jour.
Voilà votre sensibilité, là. Hein. Mais non, je les ai vus pas assez longtemps pour les voir bouger, mais je peux comprendre, en tous les cas, cette image. Là, que ce soit les temples de l'Orissa, les temples, je veux dire, autres. Et puis, il y a cette représentation, quand même, qu'on retrouve du Lingwan et du Yoni, c'est-à-dire du sexe masculin et du sexe féminin. Il y a un culte de la vulve féminine. Il n'y a pas de vulve non féminine d'ailleurs. Et c'est assez étonnant. Donc c'est une présence quand même qui est très forte de toute façon. Et pourtant, il y a aussi des attitudes de refus par rapport à la passion, qui est la passion ou le désir sexuel, qui peut-être, s'il n'est pas maîtrisé, un élément de destruction. Par exemple, dans la mythologie brahmanique, on dit que Shiva est dérangé dans sa méditation par justement un désir, qu'il va tuer de son troisième œil, l'œil de la connaissance, il va tuer le dieu Eros. Donc il essaye de ne pas être soumis, je dirais, à ce désir. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que dans le tantrisme, c'est aussi on va apprivoiser le désir pour ne pas en être victime? Est-ce que vous avez cette vision-là aussi, Daniel Audier?
Il y a une vision du corps qui est très différente. Le Bouddha historique disait que le corps n'était qu'un sac d'excréments, ce qui n'est pas hyper romantique. Les tantriques du Cachemire disent que le corps a la beauté du cosmos, avec les étoiles filantes, toute la manifestation cosmique. Donc le corps est considéré comme quelque chose de grandiose, de magnifique, et surtout d'illimité. Donc les pratiques de yoga vont être un moyen pour toucher ce qu'on appelle dans beaucoup de poèmes tantriques le corps-espace. Donc la vision fondamentale du corps, c'est le point de départ. Soit c'est quelque chose de souillé, soit c'est quelque chose de cosmique.
Pourquoi est-ce qu'on dit que le tantra est la voie humide?
C'est peut-être en référence avec l'alchimie, oui. Où on distingue une voie humide et une voie sèche. C'est peut-être.
Alors effectivement, Françoise Bonnardel, vous faites tout un parallélisme entre, je veux dire, le tantra et l'alchimie, sur lequel nous allons revenir dans un instant. Avant d'écouter la musique, je voudrais juste vous poser une question. Par contre, vous êtes bien d'accord qu'il y a un tantra de la main droite et un tantra de la main gauche?
Non, pas vraiment.
Bon, alors.
C'est un peu inventé par les Anglais, ça.
Oui. Ah oui, je ouais. Dis pas que ça peut être inventé.
C'était quand même très puritain.
Mais voilà, mais c'est ce qui véhicule quand même. C'est ce qui est véhiculé. C'est que la main gauche, c'est l'énergie sexuelle pour accéder au spirituel dans notre existence. Et que la main droite, c'est uniquement méditatif. C'est peut-être transformé par les occidentaux, hein. Je veux bien croire.
Je crois que la chose importante, c'est justement de ne plus opposer sexualité et approche mystique. Et là, ça commence à devenir plus simple. Parce qu'autrement, on est toujours dans l'idée qu'il faudrait refuser l'un pour avoir l'autre, ou utiliser l'un pour accéder à l'autre.
Oui, puis alors, je crois aussi qu'il faudrait peut-être rappeler la dimension cosmique, justement, des représentations d'étreintes divines. Vous avez cité tout à l'heure, effectivement, le lingua ioni, qui en est la représentation la plus archaïque, en fait. Mais aussi bien dans la tradition indienne que dans la tradition tantrique bouddhique, la divinité est représentée en couple, et souvent en couple enlacé. Vous voyez ça dans les tankas tibétaines, au centre du mandala, vous avez un couple divin. Donc là, si vous voulez, je crois que c'est la représentation la plus archaïque et la plus importante de la sexualité, c'est que le divin est lui-même sexué. Pourtant, le dieu n'est pas célibataire.
On a là dans cette représentation une forme de dualité. Et qu'on va essayer de...
Pourquoi de dualité?
Parce qu'il y a la parade...
Parce qu'il y a un homme et une femme. Oui. C'est pas vécu du tout comme dualité, c'est vécu comme complémentarité et comme manifestation masculine et féminine de l'énergie cosmique.
Le lien sexuel, justement, va peut-être aller vers l'unité encore plus.
Mais c'est pas l'unité qui est cherchée. Non, ça c'est un fantasme occidental. C'est l'union qui crée l'unité, qui crée la fusion, etc., etc. La fusion sexuelle des dieux est un moyen de délivrance, est un moyen d'atteindre l'éveil dans l'un et l'autre cas. Donc, on vise pas l'unité. L'unité, elle est là. Elle est dans la complémentarité des énergies masculines, féminines. Et ça, si vous voulez, les dieux eux-mêmes sont l'exemple de ça. Donc ça, je crois que c'est très important parce que ce lien entre sexualité et spiritualité, il est d'emblée divin. C'est les dieux qui donnent l'exemple de ça. Et les dieux sont eux-mêmes la manifestation d'une énergie cosmique, de l'énergie créatrice et destructrice d'ailleurs en même temps.
Non, enfin moi ce que je ressentais c'était que, si vous voulez, le lien linguam yoni, enfin la fusion était quand même quelque chose qui s'opposait à la dualité.
Oui, bien
juste
sûr.
Juste la fusion, et donc oui. ça c'est Mais quand même ce qu'on retrouve en permanence.
Ça dépend parce que la forme, ne serait-ce que la forme littéraire dans la plupart des tantras, est toujours la même, c'est un dialogue entre Shiva Shakti, parfois c'est Shakti qui enseigne, parfois c'est Shiva, c'est à peu près équivalent. Mais ça commence justement par une représentation de l'union amoureuse de Shiva et Shakti, qui sont dans une telle égalité, on peut dire, de connaissances, toutes les égalités, qu'il y a une division pour créer un dialogue. Donc tout d'un coup, il y a une scission, il y a un dialogue entre Shiva et Shakti, et une fois que le tantra est donné, c'est-à-dire que l'enseignement est donné, il y a une réunion de Shiva et Shakti qui entre en union amoureuse et qui c'est la clôture de la, c'est dans la structure littéraire. Et même dans les pratiques, il y a l'idée qu'un yogin, par la pratique, devient un corps androgyne qui représente à la fois Shiva et Shakti. Donc on peut dire que l'androgyna, en fait, dans l'alchimie, il y a aussi cette idée. L'androgyna, en général, ça se passe dans les flammes, etc. C'est la même chose.
Donc nous aborderons dans quelques instants l'extase sexuelle et ses variantes avec un peu de musique pour nous détendre.
matière à penser, René Friedman.
Voilà, nous venons de quitter ces merveilleux chants iraniens du groupe Dastan, qui nous font rêver, nous font peut-être nous élever, nous font peut-être demain nous éveiller. Nous allons parler de l'éveil, bien sûr, du bouddhisme. C'est quand même un moment intéressant de l'apport de l'extérieur sur la sexualité et spiritualité. Je veux dire par là que dans la pratique tantrice que nous discutons avec Daniel Audier et Françoise Bonnardel, il y a une mise en demeure. Enfin, je veux dire par là tout un cadre qui permet théoriquement de monter dans la spiritualité. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, Daniel Audier, ce qui crée le décor, la respiration, le dialogue, enfin les différents moments où ceux qui veulent comprendre et vivre le tantrisme vers la spiritualité peuvent être guidés, puisqu'il y a toujours un guide.
Je pense que la principale idée, c'est que pour avoir une sexualité, ne serait-ce qu'harmonieuse, pour pas dire divine, il faut commencer par être en lien avec la totalité. Donc c'est exactement le contraire de ce qui est enseigné sous l'on tantra, où on pense que la sexualité va nous conduire à l'illumination. Là, c'est l'inverse. C'est d'abord des pratiques ascétiques difficiles, la méditation. Quand il y a une ouverture et que les limites... Ça a beaucoup à voir avec la limite du corps. Quand on sent son corps limité, on a forcément une sexualité limitée. Quand par la pratique de la danse, parce que chez les Cachemiriens, on pratique une danse qui s'appelle Tandava, qui est une danse très libre, mais extrêmement lente et continue, qui va ouvrir le corps à une dimension plus grande, c'est-à-dire qu'on va réaliser que le corps n'est pas cette image qu'on peut observer dans un miroir, mais qu'il peut, un peu comme si le yogin était enceinte du cosmos, c'est ça l'idée. Mmh, mmh. Donc c'est vraiment la condition préalable pour aborder d'autres pratiques, ce qui veut dire que c'est une condition extrêmement difficile et que très peu de gens vont y avoir accès. C'est le contraire de la facilité occidentale qui serait de dire « libérons-nous sexuellement et nous allons atteindre l'extase mystique ». Abhinavagupta devait faire face au problème déjà parce que en l'an 1000, il a eu cette phrase qui est plutôt drôle. Il a dit « Si la sexualité avait un lien direct avec la pratique tantrique, mon âne serait mon maître. » C'est assez joli. Donc il y a là une grande confusion. Ça commence par une ascèse qui est extrêmement difficile, qui peut être longue. Ensuite, il peut y avoir éventuellement une transmission de pratiques sexuelles. Mais être en lien avec la totalité, c'est peut-être la plus grande expérience sexuelle qu'on puisse faire. Mmh. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'un partenaire. C'est ça qui est extraordinaire.
Mais ce que je voulais dire, c'était que il y a quand même une place de l'environnement, je dirais, des odeurs, de la fragrance, des mantras, je dirais, pour pouvoir accéder et peut-être sortir de sa condition immédiate. Il y a une mise en scène quand même qui existe. En tous les cas, au début. Après,
pas tellement. Il y a.
Je me réfère à votre livre.
Il y a cette idée d'être présent à toutes ces sensations, mais aussi à tout l'univers émotionnel qui en fait partie. Donc, c'est peu rituel. Le tantrisme du Cachemire est peu rituel. Il est beaucoup plus philosophique. Ce qui n'empêche qu'il y a quand même des pratiques. Mais on pourrait dire que les pratiques peuvent être effectuées sans aucun décor. Hein.
Non, mais ça facilite peut-être une certaine ascension. Enfin, peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Kundalini et les chakras. Voilà.
En revanche, ce qui est très très important pour Abhinavagupta et les autres, c'est la musique. Parce que la musique est considérée comme le véhicule suprême déjà pour mettre le corps en vibration. Moi, je suis dans une voie qui s'appelle Spanda. Spanda, ça veut dire frémissement, vibration, dans le sens où un instrument de musique peut vibrer, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement subtil. Et quand cette vibration est là, par la musique, ça, la musique est toujours présente. C'est peut-être la condition principale pour l'ouverture des sens, pour l'ouverture de l'émotion et pour l'ouverture de la pensée aussi.
Alors, je reviens à ma question. La méditation éveille la Kundalini. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je dirais cette montée progressive jusqu'à la chambre d'en haut, hein, tel que c'est écrit comme ça. Est-ce que, je dirais, cette sexualité qui est quand même, j'ai envie de dire, bizarre au premier abord, puisque en fait l'homme se retient de jouir, enfin de...
Ah non.
Ah bon. Alors tous les points d'arrêt,
pas du tout.
C'est de la pratique californienne.
Oui, tout ça, ça a été inventé par les Occidentaux. Si on lit la mythologie, on parle des éjaculations de Shiva comme quelque chose d'absolument grandiose. On dit même que la lune a été créée par une éjaculation de Shiva et que le soleil a été créé par le sang menstruel de la Shakti. C'est pour ça que les hindous ne nous aiment pas beaucoup, puisqu'ils font la salutation au soleil tous les jours. De penser que ça pourrait être le sang menstruel de la Shakti, c'est excessif pour eux. Quant à la Kundalini, on a une idée tout à fait différente pour les Cachemiriens, et ça c'est sans doute l'influence des maîtres femmes. Il y a l'idée que la Kundalini part du centre du cœur et pas du tout de la base. Donc il n'y a pas cette sorte de vision de fusée qui traverse le corps et qui peut exploser à n'importe quel niveau. Parce que les yoginis disaient que si le cœur est ouvert, tout est ouvert. Donc il ne peut pas y avoir d'accident. Donc notre idée de la Kundalini serait plutôt comme une sphère d'or qui se développerait à partir du cœur et qui irait aussi bien vers le bas que vers le haut.
Et comment vous traduisez Kundalini ?
C'est souvent représenté par un serpent levé, enroulé. Chez les Cachemiriens, on voit ça dans les images. Il est enroulé dans le cœur. Et dans le système hindou, c'est une énergie qui part de la base.
Il y a quelque chose qui me frappe, moi, dans tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est quand même la position de la femme, qui est quand même vénérée, représentée, et pas du tout abaissée, comme dans beaucoup d'autres religions, quoique. Mais quand même, dans la pratique tantriste, est-ce que vous considérez qu'il y a dans cette sexualité à gradin, hein, qui monte et qui se détache de la performance, bien entendu, est-ce que vous pensez que la position de la femme est très différente ?
Elle est très différente parce qu'elle
par
a
rapport
souvent
aux autres religions, aux sociétés.
Elle a souvent un rôle presque dominant, mais bon, dans la mythologie, il faut pas oublier que la Shakti, c'est la puissance quand même. Et c'est aussi pour ça que le lingam sort de la yoni, parce que Shiva, c'est l'architecte du cosmos. Donc l'architecture émerge de la puissance du féminin. Alors forcément, il y a une image différente.
Madame Françoise Bonnardel, vous avez dans vos livres essayer de montrer les liens qu'il y a entre l'alchimie et le tantrisme. Et j'ai trouvé ça très novateur, enfin pour moi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, non sans avoir rappelé, me semble-t-il, que je crois que pour parler de ces questions de façon à peu près pertinente, il faut essayer de se dégager tout de même des connotations que nous, occidentaux, mettons derrière ces deux mots de sexualité et de spiritualité. Je rejoins Daniel Audier par d'autres voies, mais dans ce contexte, si vous voulez, la sexualité, il n'y a pas de comment dirais-je, l'intérêt n'est pas fixé sur la sexualité. La sexualité, au fond, elle est cosmique, comme je le disais tout à l'heure, elle est divine. C'est l'énergie même de l'univers qui est sexuée. Et quant à la spiritualité, elle n'est pas détachée de la voie de délivrance, de libération que représente le bouddhisme, y compris dans sa connotation, dans sa dimension tantrique. Donc, si vous voulez, nous occidentaux, on a tendance à se dire, à voir ça comme deux domaines séparés, et en même temps à séparer ces notions d'un contexte. Or, dans le bouddhisme, le contexte est le même, que ce soit le tantra ou les autres véhicules, c'est la libération. C'est la libération, c'est-à-dire l'éveil, c'est la sortie du cycle des existences. Alors, on en sort par la vie monastique, on en sort par la vision non-duelle du Mahayana, mais on en sort aussi par l'extase. L'extase mystique et sexuelle. Mais il ne faut pas oublier ça. C'est ce qui importe, c'est la sortie. C'est pour ça qu'aussi, ça n'a strictement rien à voir avec nos sexualités à nous, quelles qu'elles soient. Bon, ça, je crois que c'est important. Alors, l'alchimie vient naturellement, dans cette perspective. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le tantra cherche à utiliser les passions, les émotions, pour cette libération. Il n'est pas question de les prendre comme un véhicule direct, c'est-à-dire plus vous êtes passionné, plus vous êtes exalté, plus vous êtes dépossédé de vous-même, plus vous allez vous libérer. Ça, c'est une vision occidentale de l'excès, de la démesure, etc. Dans le tantra, c'est au contraire utiliser l'énergie de ces passions, de ces émotions, mais afin de les transmuter, c'est-à-dire de les transmuter en sagesse, et en sagesse éveillée. Donc, si vous voulez, c'est pas le plaisir sexuel qui est cherché, c'est, s'il arrive au passage, pourquoi pas, à condition que ce soit pas un piège. Parce que justement, un plaisir excessif peut être un piège. À ce moment-là, les bouddhistes vous disent « Attention, vous menez la vie des dieux, là. Les dieux, eux, se livrent à des plaisirs démesurés. » L'éveil, c'est pas la vie des dieux. C'est pas la vie, simplement, la vie béate. Alors, la transmutation, eh bien, c'est ça. C'est transformer les poisons des passions en remède. C'est une image qui revient constamment.
Donc c'est ce que vous avez trouvé dans l'alchimie, c'est-à-dire aussi la transmutation.
Ah ben c'est le,
comment on fait du mercure de l'or.
C'est ça, c'est la base de l'alchimie occidentale, c'est la base de toutes les alchimies. Mais alors, là, ce qu'il faut distinguer, si vous voulez, c'est les pratiques alchimiques externes, c'est-à-dire la fabrication de médicaments à partir de substances comme le mercure et autres, qui font toujours partie de la pharmacopée tibétaine. Aujourd'hui encore, on fabrique des médicaments, à l'Institut Chakpori en particulier, dans l'ancien Institut Chakpori au Tibet, on fabrique des médicaments selon des techniques alchimiques. Mais dans le tantra, c'est une alchimie interne. Alors, c'est très compliqué, mais disons, si vous voulez, que, en schématisant, le yogi doit être capable dans sa pratique... pratique sexuelle ou non sexuelle d'ailleurs, et ça peut se faire avec une partenaire, mais la plupart du temps c'est une longue pratique sans partenaire, c'est de faire, si vous voulez, de faire, ça c'est une topographie, une physiologie qui a été, physiologie subtile qui a été empruntée à l'Inde, où il y a trois canaux. C'est ce que le yoga connaît, il y a un canal central et trois canaux latéraux. Et le but de ces pratiques, c'est de faire se réunir les canaux latéraux, l'énergie des canaux latéraux dans le canal central, ce qui est une pratique yogique en Inde comme dans le tantra bouddhique. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est cette réunion de ces énergies masculines et féminines qui opère cette transmutation. Alors, inutile de vous dire pour arriver à ça, il faut des années d'ascèse yogique, et que par conséquent, ceux qui penseraient que l'union sexuelle, même un peu exaltée, va leur permettre de transmuter leur corps mortel en corps de diamant, là, se font vraiment des illusions. Donc, si vous voyez bien, la question de l'alchimie, elle est au cœur des pratiques yogiques. Et je simplifie énormément, mais c'est très compliqué, cette histoire-là. Et ça demande une technicité qui n'est pas à la portée de n'importe qui.
Pour terminer, puisque le temps passe, à vous écouter, il passe très vite d'ailleurs, j'ai envie de vous poser comme question, Daniel Audier, est-ce que le Dalai Lama est un grand tantrique ?
Je ne sais pas, peut-être, si on voit le temple... qui était plus ou moins secret, et qu'on voit les représentations qui se trouvent là, c'est surtout des pratiques de Dzogchen qui sont très proches. Le Dzogchen, c'est une approche très directe qui est presque semblable, on peut dire, à l'approche cachemirienne. Oui. Il y a beaucoup de points communs. Donc là, tout le yoga est décrit par image, ce qui est peut-être plus facile à comprendre que les mots.
D'ailleurs, cette image vient de là.
Absolument. Oui. Et c'est magnifique, ça parle des visions, des tiglés, de toutes ces choses-là. Et bien sûr, on voit les trois canaux subtils, on voit tout ça. Donc ça, on montre très bien que c'est pas, non seulement pas à la portée de tout le monde, mais on pourrait dire presque à la portée de personne, plutôt.
On a bien compris que la discussion que nous avons autour de sexualité et spiritualité, même si on peut revenir sur les mots, est bien loin des psychos qui ont été développé ici, surtout en Occident, hein, par rapport à ça, qu'on est dans une véritable mouvement vers l'éveil et vers l'extase spirituelle. Je vous renvoie aux livres, les nombreux livres qui seront sur la liste de .fr, en tous les cas, de France Culture, mais surtout « Bouddhisme, tantrique et alchimie » de Françoise Bonnardel, « Désir, passion et spiritualité » de Daniel Audier, qui vous permettront, chers auditeurs, à aller un peu plus loin dans ce monde bien complexe, mais bien passionnant. C'est l'occasion sur France Culture de poursuivre spiritualité et sexualité. Et grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Nino Lima et Pierre Monteil, vous avez pu avoir une émission faite sur mesure et sur couture. Voilà, vous pourrez écouter sur le site internet franceculture.fr et vous pourrez demain poursuivre cette réflexion avec par contre notre Peggy Sastre qui sera l'invité de Nos Sexes. Merci de votre attention et à bientôt.